Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Formidable de pouvoir se parler, sans se connaître, hein.
Pour dire quoi?
N'importe quoi. Parler de soi.
Pas intéressant. Il y a des livres qui font ça 100 fois mieux.
Bah dis donc, t'es pas heureux, toi?
Si, je suis heureux. Je sais qu'on n'a rien à se dire, mais je sais aussi qu'on a le temps de le chercher. Et je sens qu'on va trouver des choses qui n'ont jamais été dites. Et ça, ça me rend heureux. Ça m'excite même drôlement, tu sais.
Tu crois qu'on peut trouver des idées qu'on n'a pas en ce moment, que personne n'a jamais eues?
J'espère. Sinon, ça serait pas la peine.
Ces idées qui n'ont jamais été dites et que personne n'a jamais eues, quelqu'un s'est un jour levé, du bon pied, pour nous aider à les formuler, pour nous inciter à ne plus monter dans le train-train de la civilisation industrielle aux mille ravages, pour imaginer des pas de côté afin d'éviter d'autres dérapages. Cet homme, c'est G.B., 1929-2004. Merveilleux auteur-dessinateur qui, à l'orée des années 70, publia dans Charlie Hebdo les planches d'une formidable utopie collective nommée l'An 01, constituée de trucs pour sortir des rails, sans douleur. Exemple, échanger les maisons et les appartements, en jeter les clés, refuser de donner son temps aveuglément, commencer à dire au revoir, au pognon, aux bagnoles, à la publicité, ne pas se laisser piéger, enfermer, dorloter par l'idée confortable. Autant de mouvements pour un futur film à faire ensemble. Film qui fut tourné dans la foulée avec l'aide de Jacques Doyon, Alain Resnais et Jean Rouch avant d'être applaudi par 500 000 spectateurs. Un demi-siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ou plutôt en avril dernier, dans la France à l'arrêt des cerveaux confinés par tant de crises sanitaires, Luma revoit le film et écrit « C'est comme si GB avait imaginé l'après-confinement d'une pandémie qui aurait pour nom capitalisme, productivisme, consumérisme ». Soudain, Mediapart, France Culture, L'Obs ou Les Inrocks en remettent tous une couche sur cette œuvre fondatrice qui pourrait nous servir de joyeux détonateur pour tout réinventer. Au même moment, le journaliste Pierre Carle, l'auteur de Pas vu, pas pris ou de La sociologie est un sport de combat, met en ligne sur son site en libre accès un documentaire d'une heure sur l'An 01 qu'il faudrait projeter dans tous les lycées, avec beaucoup d'extraits du film, des interviews de GB et pas mal d'archives montrant des gonzes, syndicalistes, journalistes ou politiciens, partisans de la croissance zéro, qui essayèrent d'alerter les foules à propos de ce monde courant à la catastrophe, déjà sous Pompidou. En parallèle, François Ruffin, député de la Somme, a ouvert une page web dans la continuité directe de l'An 01, en appelant les internautes à écrire ensemble un essai collaboratif sous la célèbre bannière GBN « On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et si cela ne suffisait pas, j'ai créé moi-même, sur notre antenne, avec le réalisateur Benoît Thuau, L'Arche de Nova, un podcast d'utopie poétique pour futurs désirables, ouvertement inspiré du maître, diffusé chaque jour dans notre matinale. Pour comprendre pourquoi, comment, à quel point GB est devenu notre contemporain capital, le jukebox littéraire de Radio Nova rouvre ses portes, enfin, après 9 semaines d'interruption, pour accueillir à bras ouverts l'écrivain, vidéaste et pop yogi Pacôme Thielman, fin connaisseur de l'art de penser et de l'anarchie douce de Georges Blondeau, dit GB, auquel il consacra de belles pages dans son ouvrage « Tous les chevaliers sauvages, tombeau de l'humour et de la guerre » publié aux éditions Philippe Ray et réédité chez Wombat. Nous en profiterons au passage pour lire en tandem l'intégralité d'un chapelet d'insultes cathartiques rassemblé dans un petit livre cruellement marrant « La vérité sur Max Lampin » signé Roland Topor en 1968 et calmement réédité chez Wombat. Sans oublier le dernier livre de Pacôme, qui s'intitule « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or », son auto-exégèse d'un fou, paru chez Florent Massot en janvier 2020, dans laquelle il écrit « La fin du monde commence maintenant. Ne voyez-vous pas comme il fait nuit en plein midi ? Il ne nous reste plus de temps du tout. » Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box. Chères auditrices, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche midi. Bonjour, Paco Mtielman.
Bonjour Richard.
Puisque vous êtes le premier invité de la Nova Book Box à venir en chair et en os, jusqu'à notre studio, qui respecte à 111% le protocole sanitaire. Je précise que nous sommes, vous et moi, à 3 mètres l'un de l'autre, que les bonnettes de micro ont été changées il y a moins de 10 minutes et que vous n'avez qu'à lever le petit doigt pour qu'on se fasse ensemble un petit shot de gel hydroalcoolique.
J'en ai déjà pris un.
Paco, puisque vous êtes le premier invité de cette émission post-confinement.
Ouais.
Ces masques obligatoires, ces visages disparus, ces distances imposées, ce sanitaire qui s'allie au sécuritaire, est-ce que ça vous fait penser à un roman ?
Alors, un roman spécifique, non, j'en ai pas en tête. Par contre, évidemment, quand l'événement du coronavirus et ensuite le confinement sont arrivés, que ce soit par les images ou que ce soit par les discours, j'ai beaucoup pensé à mon showrunner préféré, Damon Lindelof,
à la fois pour
Leftovers et à la fois pour Watchmen. Là, il y avait les trois à la fois. J'étais comme Desmond dans sa station d'Arma, qu'elle essayait tous les jours avec Mama Cass et qui allait refaire son ménage et son petit déjeuner à l'identique pour pas péter un câble. J'étais à la fois comme dans The Leftovers avec l'imminence du pourcentage des disparus et surtout quand on avait les nouvelles des gens qui mouraient, des célébrités qui mouraient, ça ressemblait un peu à ce qu'il y avait dans le pilote de Leftovers où on avait une espèce de liste bizarroïde où on n'arrivait pas à trouver le sens de ces 2%. C'est-à-dire
pour... Je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas la série que c'est une série qui est basée, qui démarre par 2% de la population mondiale a disparu et on ne sait pas pourquoi.
Voilà, du jour au lendemain. Et après, on voit comment ça se passe le jour d'après.
Quant à Watchmen, la bande dessinée d'Alan Moore, adaptée récemment par Damon Lindelof.
Eh ben alors, on a des gens masqués partout.
Ouais.
Et quand on a vu les images, des conseils de ministres à travers le monde avec tous les gens masqués et compagnie, ou même quand on a vu notre petit robot présidentiel se balader avec son masque, ça faisait vraiment des images de Watchmen, mais terriblement. Donc, il y avait tout ça qui est rentré en jeu avec, évidemment, encore, enfin, bon, toutes les dimensions émotionnelles qui peuvent être associé à ça. Maintenant, une autre œuvre à laquelle j'ai beaucoup pensé, alors c'est à l'œuvre de GB. Donc j'ai pensé à Lindelof et j'ai pensé à GB. C'est notoirement un des moins connus des membres de Harakiri, avec Delphine de Ton, et injustement méconnus l'un comme l'autre. Enfin, il y a aussi Fournier qui n'est pas super célèbre et qui est super central aujourd'hui. Mais GB a été énormément sollicité en termes intellectuels avec l'an 01.
Cette bande dessinée, vous l'avez un jour décrite comme un grand œuvre apportant la médecine universelle de l'anarchie douce par la transmutation du quotidien en poésie vécue. Quelle place elle occupe, cette BD, dans votre cœur?
Oh bah, GB, ça a été un très grand amour déjà quand j'étais très jeune. GB, il apparaissait au milieu de l'univers d'Harakiri, mais il est à la fois comment dire, au centre et en même temps en périphérie ou en décalage. Parce que c'est très rare que les bandes dessinées de GB, par exemple, aient de la cruauté. Or, c'est à ça aussi que Harakiri a excellé. C'est à un humour cruel.
Un humour de samouraï. Vous avez écrit un essai sur la question.
J'avais écrit un essai sur Harakiri. Et GB, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique, beaucoup plus inattendu, beaucoup plus... presque austère même dans son humour et dans sa manière de faire, parce que c'est très géométrique, c'est-à-dire qu'on sent bien partout le compas, la règle, le travail pour rendre tout ça presque logique sur la page, qui est une organisation logique déviante, mais logique quand même. Parce que GB, au départ, c'était un dessinateur industriel. Et ses premières publications, c'était dans La Vie du Rail. D'ailleurs, Choron, dans son biographie, disait qu'il voyait toujours le GB de La Vie du Rail, finalement, à Harakiri. Il continuait à voir ce dessinateur industriel dans son souci de rendre les choses les plus claires et les plus organisées possibles. Maintenant, c'est de l'industriel qui a déraillé. C'est un train qui a déraillé.
La vie déraille, en fait.
Oui, exactement. Et le début de l'an 01, le film, si vous avez vu le film, qui est une des premières apparitions de Depardieu, d'ailleurs, à l'écran.
Au tout début.
Au tout début.
C'est
c'est lui qui fait dérailler parce qu'il est sur le quai d'un train.
C'est ça.
Et il dit à quelqu'un d'autre, et si t'allais pas au boulot aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Viens, on n'y va pas.
C'est ça.
Et il arrive à le convaincre.
Ouais.
Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus me rentrer dans le train.
T'as plus jamais monté dans le train?
Non, enfin, jamais. Non. C'est pas le mot, mais toujours le même train, vous comprenez, à la fin.
À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas?
Et donc?
Je peux plus prendre le train.
Je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on craint. Ils vont pas nous donner des gifles, quoi. On n'a rien à craindre.
Et eux? Tu crois que j'ai pas peur des gifles qui se démènent comme ça? On n'a pas le droit de se conduire comme ça.
Oui.
Oui, Depardieu ouvre le film et Coluche le clôt, en gros. Avec, dans les dernières séquences, le souvenir de ce que c'était avant l'an 01. Et comment ils ont fait l'an 01. Et c'est le film même, en fait, est à voir comme on appelle, une reconstitution historique. Une reconstitution historique de la façon dont ils ont fait l'an 01. C'est un des sommets de l'activité des membres d'Arakiri. C'est clairement un sommet de l'activité de GB qui a fait au moins 5 ou 6 grands chefs-d'œuvre. Et puis après, aussi beaucoup d'autres œuvres passionnantes. Mais l'an 01, ça dépasse GB d'une certaine façon. C'était prévu dès le début. C'est très intéressant. Ça, c'est publié dans la presse, mais c'est publié comme un film à faire ensemble. Donc c'est un projet de film qui est lancé. Puis finalement, le film va se faire. Et le film va se faire quasiment documenté semaine après semaine dans l'hebdo par des informations disant bah voilà, on va faire des castings cette semaine, voilà, venez, on commence à tourner, etc.
Et envoyez-nous des idées, ce que je trouve très beau, c'est que la plupart du temps, c'est qu'à la fin de chaque planche, ils disaient oh, on a reçu du courrier, il y a machin qui propose ça, et puis continuez à nous envoyer des choses parce que vraiment ça nourrit la réflexion et on sentait qu'il y avait des idées des lecteurs qui pouvaient donner
bien
lieu
sûr
à des planches et à des futures scènes du film. Ah,
ça c'est formidable. Non mais ça c'est formidable. Mais l'an 01, en fait, c'est intéressant parce que c'est Pascal, le fils de GB, qui me l'avait fait remarquer au moment où il y a eu les gilets jaunes. Déjà, il y avait un parfum dans 01, parce que ces types qui s'arrêtent et qui discutent sur les ronds-points et qui veulent refaire le monde et qui veulent refaire la Constitution et qui disent comment ça pourrait mieux fonctionner, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux, ça fonctionne pas bien là, qu'est-ce qu'on fait, c'est déjà 01.
Ouais.
Je veux dire, c'est-à-dire que GB traverse l'époque. C'est une expression tellement ronflante, mais c'est le contemporain capital, quoi.
Ouais.
C'est GB. On est dans une époque GBN pour ça. Il y a le collectif, il y a la recherche à travers du collectif de trouver des solutions qui n'ont pas encore été trouvées, trouver des trucs nouveaux, la concertation, la discussion, essayer de penser de façon non hiérarchique. C'est-à-dire, pas il y a un type en haut et qui dicte qu'est-ce qu'il faut faire, mais que ce soit des gens qui se rencontrent et qui, sur un mode totalement horizontal, testent des choses. Mais tout ça, on a retrouvé, évidemment, chez les Gilets jaunes. Et on le retrouve encore aujourd'hui, dans les 2 mois qu'on a passé. Et maintenant qu'on en sort, on est à se poser ces questions-là. Parce qu'on s'en rend bien compte que d'avoir sans cesse délégué nos pouvoirs à une minorité supposément compétente nous a amené dans une suite continuelle de catastrophe. Et c'est la phrase de Zappa, les gens pour qui vous pouvez voter ne valent pas mieux que des criminels.
Franck Zappa. Il y a 20 ans pile, en avril 2000, pour prolonger votre idée, lors de la réédition de ce chef-d'œuvre, GB écrivait, dans l'an 1, « L'utopie, rébellion non-violente, lance un pont invisible dont l'arche, ancrée dans ce présent affligeant, enjambe le décevant avenir prévisible et touche une rive inconnue, vierge, où la vie pourrait prendre un cours différent, sans marchés financiers, ni poisons industriels, ni distractions viles et sans tyrannies inesthétiques. » C'est vraiment une phrase qui résonne de manière si puissante avec notre époque.
C'est sublime, c'est sublime. C'est sublime. Bien sûr, GB, il est à inscrire dans cette grande histoire, non seulement c'est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée, de l'histoire de la bande dessinée, mais aussi c'est un des plus grands penseurs de l'utopie. C'est du sérieux, l'utopie, on pourrait dire. C'est pas du tout un truc de rêveur. C'est pas du tout à opposer l'utopie à la réelle politique et tout ça. On se rend compte, c'est que tous ceux qui ont voulu faire de la politique de façon réaliste, ils amènent les gens au cauchemar. Donc il est indispensable de se nourrir de personnes qui ont voulu regarder au-delà. Regarder au-delà ce qui était non seulement possible, ce qui était meilleur, et ce qui était simplement presque la condition même de notre survie. Parce qu'à un moment, ça va être une question de survie. Mmh. Parce que là, c'est ça qu'on s'est rendu compte, là. Enfin, je crois. C'est que c'est une question de survie à un moment. Mmh. À un moment, l'air nous empoisonne. À un moment, c'est asphyxiant. À un moment, on est juste dans une situation où tout ce qui faisait le goût de l'existence disparaît devant nos yeux et laisse devant nous un trou béant. Par rapport à ça, ce serait criminel aussi de laisser ceux qui nous ont mis dans cette situation poursuivre. Et poursuivre de plus belle en disant on gère. Ils n'ont rien géré du tout, on le sait. Ils nous ont laissé nous démerder. Ils nous ont dit restez chez vous et essayez de ne pas crever. Regardez tout ce qu'ils ont fait. On peut le faire sans eux, ça.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis
elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elles vous vont comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
Bonjour Richard.
Puisque vous êtes le premier invité de la Nova Book Box à venir en chair et en os, jusqu'à notre studio, qui respecte à 111% le protocole sanitaire. Je précise que nous sommes, vous et moi, à 3 mètres l'un de l'autre, que les bonnettes de micro ont été changées il y a moins de 10 minutes et que vous n'avez qu'à lever le petit doigt pour qu'on se fasse ensemble un petit shot de gel hydroalcoolique. Facom,
j'en ai déjà pris un.
Facom, puisque vous êtes le premier invité de cette émission post-confinement.
Ouais.
Ces masques obligatoires, ces visages disparus, ces distances imposées, ce sanitaire qui s'allie au sécuritaire. Est-ce que ça vous fait penser à un roman ?
Alors, un roman spécifique, non, j'en ai pas en tête. Par contre, évidemment, quand l'événement du coronavirus et ensuite le confinement sont arrivés, que ce soit par les images ou que ce soit par les discours, j'ai beaucoup pensé à mon showrunner préféré, Damon Lindelof, à la fois pour Leftovers et à la fois pour Watchmen. C'est vrai qu'il y avait les trois à la fois. J'étais comme Desmond dans sa station d'Arma, qui allait se réveiller tous les jours avec Mama Cass et qui allait refaire son ménage et son petit déjeuner à l'identique pour pas péter un câble. J'étais à la fois comme dans The Leftovers avec l'imminence du pourcentage des disparus et surtout quand on avait les nouvelles des gens qui mouraient, des célébrités qui mouraient, ça ressemblait un peu à ce qu'il y avait dans le pilote de Leftovers, où on avait une espèce de liste bizarroïde, où on n'arrivait pas à trouver le sens de ces 2%. C'est-à-dire
pour... Je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas la série, que c'est une série qui est basée, qui démarre par 2% de la population mondiale a disparu, et on ne sait pas pourquoi.
Voilà, du jour au lendemain. Et après, on voit comment ça se passe le jour d'après.
Quant à Watchmen, la bande dessinée d'Alan Moore, adaptée récemment par Damon Lindelof.
Eh ben alors, on a des gens masqués partout. Ouais. Et quand on a vu les images des conseils de ministres à travers le monde avec tous les gens masqués et compagnie, ou même quand on a vu notre petit robot présidentiel se balader avec son masque, ça faisait vraiment des images de Watchmen, mais terriblement. Donc, il y avait tout ça qui rentrait en jeu avec, évidemment, encore, enfin, bon, toutes les dimensions émotionnelles qui peuvent être associées à ça. Maintenant, une autre œuvre à laquelle j'ai beaucoup pensé, alors c'est à l'œuvre de GB. Donc j'ai pensé à Lindelof et j'ai pensé à GB. C'est notoirement un des moins connus des membres de Harakiri, avec Delphi de Ton, et injustement méconnu l'un comme l'autre. Enfin, il y a aussi Fournier qui n'est pas super célèbre et qui est super central aujourd'hui. Mais GB a été énormément sollicité en termes intellectuels avec l'an 01.
Cette bande dessinée, vous l'avez un jour décrite comme un grand œuvre apportant la médecine universelle de l'anarchie douce par la transmutation du quotidien en poésie vécue. Quelle place elle occupe, cette BD, dans votre cœur?
Oh bah, GB, ça a été un très grand amour déjà quand j'étais très jeune. GB, il apparaissait au milieu de l'univers d'Harakiri, mais il est à la fois comment dire, au centre et en même temps en périphérie ou en décalage. Parce que c'est très rare que les bandes dessinées de GB, par exemple, aient de la cruauté. Or, c'est à ça aussi que Harakiri a excellé. C'est un humour cruel.
Un humour de samouraï. Vous avez écrit un essai sur la question.
J'avais écrit un essai sur Harakiri. Et GB, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique, beaucoup plus inattendu, beaucoup plus... presque austère même dans son humour et dans sa manière de faire, parce que c'est très géométrique, c'est-à-dire qu'on sent bien partout le compas, la règle, le travail pour rendre tout ça presque logique sur la page, qui est une organisation logique déviante, mais logique quand même. Parce que GB, au départ, c'était un dessinateur industriel. Et ses premières publications, c'est dans La Vie du Rail. D'ailleurs, Choron, dans son biographie, disait qu'il voyait toujours le GB de La Vie du Rail, finalement, à Harakiri. Il continuait à voir ce dessinateur industriel dans son souci de rendre les choses les plus claires et les plus organisées possibles. Maintenant, c'est de l'industriel qui a déraillé. C'est un train qui a déraillé.
La vie déraille, en fait.
Oui, exactement. Et le début de l'an 01, le film, si vous avez vu le film, qui est une des premières apparitions de Depardieu, d'ailleurs, à l'écran.
Au tout début.
Au tout début.
C'est lui qui fait dérailler parce qu'il est sur le quai d'un train.
C'est ça.
Et il dit à quelqu'un d'autre, et si t'allais pas au boulot aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Viens, on n'y va pas.
C'est ça.
Et il arrive à le convaincre.
Ouais.
Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus me rentrer dans le train.
T'as plus jamais monté dans le train?
Non, enfin, jamais. Non. C'est pas le mot, mais toujours le même train, vous comprenez, à la fin.
À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas?
Et donc?
Je ne peux plus prendre de train.
Je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on craint. Ils vont pas nous donner des gifles, quoi. On n'a rien à craindre.
Et eux, tu crois que j'ai pas peur des gifles qui se démènent comme ça? On n'a pas le droit de se conduire comme ça.
Oui.
Oui, Depardieu ouvre le film et Coluche le clôt, en gros. Avec, dans les dernières séquences, le souvenir de ce que c'était avant l'an 01. Et comment ils ont fait l'an 01. Et c'est le film même, en fait, est à voir, comment on appelle, une reconstitution historique. Une reconstitution historique de la façon dont ils ont fait l'an 01. C'est un des sommets de l'activité des membres d'Harakiri. C'est clairement un sommet de l'activité de GB qui a fait au moins 5 ou 6 grands chefs-d'œuvre. Et puis après, aussi beaucoup beaucoup d'autres œuvres passionnantes, mais L'An 01, ça dépasse GB d'une certaine façon. C'était prévu dès le début, c'est très intéressant. Ça, c'est publié dans la presse, mais c'est publié comme un film à faire ensemble. Donc c'est un projet de film qui est lancé. Puis finalement, le film va se faire. Et le film va se faire quasiment documenté semaine après semaine dans l'hebdo par des informations disant bah voilà, on va faire des castings cette semaine, voilà, venez, on commence à tourner, etc.
Et envoyez-nous des idées, ce que je trouve très beau, c'est que la plupart du temps, c'est qu'à la fin de chaque planche, ils disaient oh, on a reçu du courrier, il y a machin qui propose ça. Et puis continuez à nous envoyer des choses parce que vraiment, ça nourrit la réflexion et on sentait qu'il y avait des idées des lecteurs qui pouvaient donner lieu à des planches et à des futures scènes du film. Ah,
ça, c'est formidable. Non, mais ça, c'est formidable. Mais L'An 01, en fait, c'est intéressant parce que c'est Pascal, le fils de GB, qui me l'avait fait remarquer au moment où il y a eu les gilets jaunes. Déjà, il y avait un parfum dans 01, parce que ces types qui s'arrêtent et qui discutent sur les ronds-points et qui veulent refaire le monde et qui veulent refaire la Constitution et qui disent comment ça pourrait mieux fonctionner, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux, ça fonctionne pas bien là, qu'est-ce qu'on fait. C'est déjà 01.
Ouais.
Je veux dire, c'est-à-dire que GB traverse l'époque. C'est une expression tellement ronflante, mais c'est le contemporain capital, quoi.
Ouais.
C'est GB. On est dans une époque GBN pour ça. Il y a le collectif, il y a la recherche à travers du collectif de trouver des solutions qui n'ont pas encore été trouvées, trouver des trucs nouveaux, de la concertation, la discussion, essayer de penser de façon non hiérarchique. C'est-à-dire, pas il y a un type en haut et qui dicte qu'est-ce qu'il faut faire, mais que ce soit des gens qui se rencontrent et qui, sur un mode totalement horizontal, testent des choses. Mais tout ça, on a retrouvé, évidemment, chez les Gilets jaunes. Et on le retrouve encore aujourd'hui, dans les 2 mois qu'on a passés. Et maintenant qu'on en sort, on est à se poser ces questions-là. Parce qu'on s'en rend bien compte que d'avoir sans cesse délégué nos pouvoirs à une minorité supposément compétente nous a amenés dans une suite continuelle de catastrophe. Et c'est la phrase de Zappa, les gens pour qui vous pouvez voter ne valent pas mieux que des criminels.
Franck Zappa. Il y a 20 ans pile, en avril 2000, pour prolonger votre idée, lors de la réédition de ce chef-d'œuvre, GB écrivait, dans l'an 1, « L'utopie, rébellion non-violente, lance un pont invisible dont l'arche, ancrée dans ce présent affligeant, enjambe le décevant avenir prévisible et touche une rive inconnue, vierge, où la vie pourrait prendre un cours différent, sans marchés financiers, ni poisons industriels, ni distractions viles, et sans tyrannies inesthétiques. » C'est vraiment une phrase qui résonne de manière si puissante avec notre époque.
C'est sublime. Bien sûr, GB, il est à inscrire dans cette grande histoire, non seulement c'est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée de l'histoire de la bande dessinée, mais aussi c'est un des plus grands penseurs de l'utopie. C'est du sérieux, l'utopie, on pourrait dire. C'est pas du tout un truc de rêveur. C'est pas du tout à opposer l'utopie à la réelle politique et tout ça. On se rend compte, c'est que tous ceux qui ont voulu faire de la politique de façon réaliste, ils amènent les gens au cauchemar. Donc il est indispensable de se nourrir de personnes qui ont voulu regarder au-delà ce qui était non seulement possible, ce qui était meilleur, et ce qui était simplement presque la condition même de notre survie. Parce qu'à un moment, ça va être une question de survie. Mmh. Parce que là, c'est ça qu'on s'est rendu compte là. Enfin, je crois. C'est que c'est une question de survie à un moment. Mmh. À un moment, l'air nous empoisonne. À un moment, c'est asphyxiant. À un moment, on est juste dans une situation où tout ce qui faisait le goût de l'existence disparaît devant nos yeux et laisse devant nous un trou béant. Par rapport à ça, ce serait criminel aussi de laisser ceux qui nous ont mis dans cette situation poursuivre de plus belle en disant on gère. Ils n'ont rien géré du tout, on le sait. Ils nous ont laissé nous démerder. Ils nous ont dit restez chez vous et essayez de ne pas crever. Tout ce qu'ils ont fait. On peut le faire sans eux, ça.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir, ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis,
elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elle vous rend comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, La Grippe, en 1971, tirée de leur compilation de duo intitulée « Chansons d'avant le déluge ». Chers naufragés imminents, vous écoutez toujours la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Je suis toujours en compagnie de l'essayiste et écrivain français Paco-M Thielman pour parler notamment de GB et de son chef-d'œuvre des années 70, si capital pour comprendre et réfléchir à des futurs désirables, la bande dessinée L'An 01.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Paco-M Thielman, si vous pouviez contribuer à la mise en place immédiate d'une utopie concrète, sans limite d'imagination, pour un futur désirable, qu'aimeriez-vous organiser ou voir advenir? Je vais vous poser la question comme elle est formulée dans la bande dessinée, dans une page d'exercice pratique. Si vous aviez la parole, quelques secondes seulement, que cela vous oblige à condenser votre pensée en quelques formules concises, claires, séduisantes et fortes, capables de toucher et de convaincre. Qu'est-ce que vous diriez?
Alors c'est drôle, hein, parce que là, d'un coup, GB, quand il dit quelques paroles séduisantes et fortes, on a l'impression qu'il veut nous...
Enfin, on dirait un homme politique.
Oui, c'est bizarre.
C'est sans doute pas anodin, je pense. C'est un détournement de la langue politique.
Le problème qui est au centre de tout, c'est le problème de l'inégalité financière. Il n'a pas cessé d'augmenter. Il a augmenté de façon exponentielle. C'est plus possible de continuer à vivre dans un monde où les pauvres sont plus pauvres, les riches plus riches. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le milliardaire est avec l'argent comme un alcoolique avec un baril de vin. On n'est pas face à quelqu'un qui est complètement clair et sain d'esprit face à ce qui se passe. Donc, il faut arriver à le convaincre qu'il est malade. Pour ça, il y a une méthode douce et une méthode dure.
Méthode douce.
La méthode douce que je préfère. Je suis aussi du côté des utopistes et des anarchistes doux, bien sûr. C'est arriver à les convaincre que leur bonheur ne se trouvera que dans l'intérêt général. Et pour ça, leur donner des exemples. Pour ça, leur montrer à nouveau la belle histoire. Non, mais faut leur parler comme à des enfants. La belle histoire des gens qui partagent. Comme c'est beau, les gens qui partagent. Et les belles histoires qui ont été racontées tant de fois dans l'histoire des princes qui se débarrassent de leur fortune pour que leur royaume devienne heureux. C'est des histoires qui se racontent et qui se racontent. Il faut s'ils ont encore un peu de lumière divine dans le cœur, ils l'entendront. S'ils ne l'entendent pas comme ça, méthode dure, il faut leur faire honte.
Comment faire honte à un milliardaire de son propre argent?
Déjà, il faut que les artistes cessent de les fréquenter. C'est-à-dire qu'il faut faire honte à ceux qui s'assoient à leur table.
Les traiter comme des pestiférés.
Exactement. Il faudrait les traiter comme des chandalas, c'est-à-dire comme en Inde, des intouchables. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quelqu'un qui dépasserait une somme, je sais pas, 3 millions, 4 millions, 5 millions, faut décider. Il faudrait que des économistes me disent à partir de quel moment le collectif peut s'en sortir. C'est là où on mettra le barème. En fait, il n'y a pas besoin d'empêcher les gens de devenir riches. Il y a juste besoin d'empêcher les pauvres de mourir. Donc du coup, il faudrait mettre un barème. Les économistes pourraient me dire à partir de quelle somme récupérée on peut s'en sortir. À partir de ce moment-là, tous ceux qui ont plus et qui donnent pas, on leur parle plus. Non seulement on leur parle plus, mais toute personne qui a envie de continuer à avoir des relations avec eux, on les exclut de la communauté. Et donc on devient très très dur. On devient très très dur, mais comprenez, on leur crève pas des yeux, on leur explose pas des mains, on prend pas un LBD. Ça va. Ils peuvent s'en sortir, il suffit juste qu'ils deviennent généreux.
Donc, on généralise notre indifférence à leur égard, on les rend infréquentables.
On les rend infréquentables. C'est un peu plus violent que l'indifférence, quand même.
Ouais.
C'est vraiment de... Je veux pas même en être approché. Je veux pas discuter. Donc, il y a la méthode douce que je préférais, qui est de leur faire comprendre l'intérêt général avant tout. Il faudrait vraiment qu'ils soient dans une notion d'intérêt général, qu'ils comprennent qu'ils ont tout à y gagner, parce qu'ils créeraient des relations belles et saines avec les autres, et pas seulement des relations de soumission, et donc des relations sadomaso, en fait.
Paco Thielmont, parmi vos musiciens favoris, lequel ou laquelle a déjà formulé, le temps d'une chanson, une utopie semblable à ce qu'on peut lire chez GB, un morceau qu'on pourrait écouter maintenant?
Lennon.
Ouais. John Lennon.
Imagine, même, simplement, déjà. Imagine. John Lennon, c'est entièrement... Ce qui est complexe avec Lennon, c'est que... Et là, il est assez proche de Rousseau aussi, dans le sens où déjà, c'est un, on va dire, un spiritualiste non hiérarchique, non institutionnel. C'est un sans-roi. Ensuite, c'est un chanteur autobiographique. C'est des confessions. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été gentil, qui n'a pas fait que du bien dans sa vie, mais qui a essayé de prendre en compte l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel, et qui a essayé de mettre l'intérêt général au-dessus de tout, et qui a essayé de trouver, on va dire, des solutions toutes temporaires, mais qui s'est battu pour que ça puisse, en tout cas, qu'il y ait un espace possible pour l'utopie. Donc il y a Imagine, qui est la plus célèbre, Give Peace a Chance. Bon, c'est pas la plus belle musicalement, mais ça démarre avant avec les Beatles, puis ça démarre avec All You Need Is Love et tout ça. Je veux dire, il a pas cessé d'essayer d'écrire des hymnes qui soient des hymnes politiques aussi. Brigand de Lucy.
All right, boys. This is it. Over the hill.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
Je suis toujours en compagnie de l'essayiste, vidéaste et écrivain Pacôme Thielman pour parler des utopies stimulantes de GB, le sage poète de l'aventure Harakiri Charlie Hebdo. Dans sa préface à la réédition de l'an 01 aux éditions L'Association, votre ami, l'auteur, dessinateur et éditeur Jean-Christophe Menu, écrit la chose suivante. L'an 01 est une utopie extraordinaire. Si cette utopie avait été plutôt une révolution, on n'aurait peut-être aujourd'hui plus rien de ce qui nous rend la vie impossible. Patron, horaire, administration, police, sans parler des sida, vaches folles, trous d'ozone, organismes génétiquement modifiés et autres immondices qui n'auraient jamais pu exister dans le monde simple et raisonnable rêvé par GB. Mais comme l'an 01 n'était qu'une utopie qui comportait en outre tout ce qui manque aux révolutions, l'humour et la poésie, les choses ont suivi leur cours.
Magnifique aussi, hein. Magnifique. Bravo Jean-Christophe.
Il y a une tristesse qui émane de ce constat, celui que je viens de lire, et qui semble avoir pesé sur GB lui-même. L'an 01, cet élan de vie et d'idées qui déclencha un film et des milliers de rencontres, en réalité cet an 01 n'a pas eu lieu. L'art est resté comme impuissant à changer la société. GB néanmoins prolongera cet élan avec un beau livre étrange et méconnu, intitulé « Tout s'allume oui. » en 1979, réédité chez Wombat avec une postface signée, attendez, Pacôme Thielman. Tout s'allume est une fiction encéphalopolitique qui raconte comment des camions parcourent la France de Giscard en proposant à des anonymes de vivre des prises de conscience, un élargissement de la conscience. Il y a toute une série de tests et de machines susceptibles, par adhésion d'un nombre suffisamment important de nos concitoyens, susceptible de conduire irrésistiblement à un changement du consensus politique d'une nation. Bienvenue dans l'âge du cerveau. Mais il y a aussi du pessimisme dans ce livre. L'euphorie de l'an 01 est ici voilée par des ombres. La résistance par l'utopie n'est plus visible à l'œil nu, à ciel ouvert, dans la rue. Les portes des appartements grandes ouvertes et les clés jetées dans le caniveau. Non, ça c'est fini. Dans Tout s'allume, GB décrit la résistance aux politiques, au monde marchand, comme une conspiration.
Alors, une petite précision, en fait, sur Tout s'allume. Il n'existait pas en livre dans les années 70. Hein. C'était une publication dans Charlie Mensuel, extraordinaire. Et c'est l'idée de Frédéric Brumand, aux éditions Wombat, de le sortir comme un livre. Il a raison parce que c'est une œuvre, Tout s'allume. C'est pas juste une expérience. Et c'est une œuvre qui est à la jonction de l'an 01 et de l'être survivant, qui eux sont sortis en livre. C'est comme le livre manquant. C'est un des chaînons manquants de l'œuvre de GB. Et Brumand, avec sa connaissance et sa sensibilité, il l'a vu. Ouais. Et bien sûr, on voit le pessimisme arriver. Le pessimisme est encore plus grand dans la lettre au survivant. La lettre au survivant,
publié en 82, que je n'ai malheureusement pas lu et que vous avez eu la gentillesse d'apporter dans ce studio.
Oui, je l'ai amené avec moi pour le montrer aux auditeurs. Et dans
montre
l'être. Voilà. En fait, dans l'être au survivant, c'est vraiment ce qu'on a vécu, quoi. Parce que, bon, sauf que c'est une attaque atomique, et donc les gens sont cachés dans des bunkers, des espèces de bunkers qui sont dans la terre, comme ça, des abris anti-atomiques. Et en fait, on a des sortes de postiers sur vélo, habillés dans des combinaisons qui les protègent, qui viennent et qui leur lisent des histoires, parce qu'ils n'ont rien. Et nous, on suit une famille. On suit une famille avec le père, la mère, le fils et la fille, qui sont là, qui s'ennuient déjà, qui ont déjà lu leurs 12 livres, qui n'ont pas pu amener la télé, tout ça, pas d'électricité, et donc qui ont des réserves de nourriture extrêmement légères, et donc ils ont besoin d'histoires, et donc lui, il vient, il raconte des histoires. Des histoires assez sombres. Les histoires qu'il raconte ne sont pas des histoires rassurantes, mais c'est quand même aussi un livre dont le but est la prise de conscience. Et c'est un livre très, très étrange, qui démarre plus sombre, qui n'est pas que sombre, mais qui est quand même pour dire, en fait, à mesure qu'on s'éloignait du moment de l'an 01, on sentait que GB était de plus en plus incertain que 01 allait pouvoir avoir lieu. Donc il faut que les conditions soient encore plus dures et encore un peu plus dures. Et là où on peut lui donner raison par rapport à ce qu'on vient de vivre, c'est qu'on a été en effet 2 mois dans une situation assez pénible de confinement, machin, mais justement, on n'a pas cessé de réfléchir pendant ces 2 mois. Ce n'est pas surprenant que GB soit réapparu encore une fois pendant ce moment. C'était idéal pour lire GB. C'était idéal, comment dire, c'était les conditions requises pour lire GB, que ce soit l'être survivant, l'an 01, ou Tu s'allumes, ou voilà.
Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait
Tout de ces lettres aux survivants, s'il vous plaît, pas ponctuellement.
Je vais vous lire un extrait. Alors, en fait, à un moment, il raconte des histoires qui sont vraiment trop sordides, le postier. Et il raconte l'histoire d'un milliardaire dont le kiff est de faire recouvrir des œuvres d'art magnifiques de petits carrés noirs pour les détruire. Et donc, il paye comme des, un peu comme des tueurs à gages, mais des peintres à gages, comme ça, qui vont repeindre des petits bouts de Modigliani pour le détruire. Et c'est un kiff. Et en fait, il a une page dans sa voiture et il coche des petites cases en noir pour montrer ce qu'il a recouvert d'œuvres d'art. Et il est en train de lire ça, le postier, et la femme, elle craque. Et elle dit, je vais vous le dire, moi, ce que ça lui fait à ce maniaque. Ça lui fait un plaisir de maniaque. Et moi, les perversions tarabiscotées des maniaques bourrés de fric, ça ne m'excite plus depuis bien longtemps. Gloussés en connaisseurs devant leurs caprices tordus comme devant un vieux cognac. Terminé. Je veux dire aussi que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on étouffe. Ce n'est pas depuis qu'on est sous terre. Avant la catastrophe, on vivait en couches, enchevêtrés les uns dans les autres, sans jamais pouvoir respirer à fond. Une couche de gens qui recouvraient la terre, une couche vivante avec des labyrinthes où les malins, eux, circulaient à l'aise. On était les pierres molles de leur souterrain. Ils se faufilaient au milieu de nous, protégés par nous. Et nous, collés les uns aux autres par les codes, les lois, les conventions, et eux, les malins, les petits maîtres du monde, qui se faufilaient comme des anguilles.
Nous allons faire une nouvelle pause musicale. Quelle est la chanson qui serait la plus adaptée pour suivre ce postier du monde d'après ?
Il y a une chanson des Birds qui s'appelle It Happens. C'est un truc où tout ça, ça se passe quand t'es pas là. It happens each day, je crois. C'est une chanson sur l'absence. C'est pas exactement ça, mais il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de... tout ça s'est passé, mais vous n'étiez pas là.
Like a silent ray of sunlight catching in my eyes.
Mon cœur ressemble à une maison de campagne délabrée sous l'orage. Pendant que je répare la fenêtre du salon, la chambre à coucher prend la pluie. Et pendant que je retape l'escalier, un éclair détruit la toiture. Je veux être heureux et pour cela, j'essaye d'améliorer mes relations avec les autres. Mais soudain, je sens un poids de 1000 atmosphères qui pèse sur mon crâne. J'essaye d'apaiser mes angoisses et me concentre sur une idée positive, consolatrice. Mais mes paroles deviennent superficielles, sentimentales, voire carrément débiles. et elles produisent l'exact inverse de ce que je voulais obtenir. Je me retrouve pris d'insomnie et de scénettes obsessionnelles. Je suis pris par le désir de regarder et d'écouter des choses ou des gens que je déteste, pour le plaisir triste de les détester davantage. Des images de cauchemars m'assaillent continuellement. À chaque fois que je prends mon marteau et des clous pour retaper un truc, un autre truc s'écroule de l'autre côté de la pièce.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours en compagnie de l'essayiste, vidéaste et écrivain Pacôme Thielman. Pacôme, vous avez publié en tout début d'année un livre intitulé « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or » d'édition Florent Massot, dont vous venez de nous lire un extrait. C'est l'examen minutieux de vos plus grandes douleurs. Vous y racontez de grandes déceptions amicales, des obsessions amoureuses, des pannes de désir, une pulsion de meurtre. Il y a des pages bouleversantes sur le deuil suite à la mort de votre père, de même qu'un texte particulièrement convaincant sur toutes les raisons que nous aurions d'arrêter de manger de la viande. C'est la première fois que vous vous risquez à ce point à l'autobiographie. Et au fil de ces introspections, des idées surgissent, évidemment, comme celle que je vais lire, qui prolonge notre discussion de tout à l'heure. Ce monde, c'est l'enfer. Dans ce monde, les premières nécessités sont plus difficiles à obtenir que le luxe de posséder une filmographie de 4000 titres, une bibliothèque de 700 livres ou 300 disques de musique. C'est tellement absurde et obscène qu'on n'en parle jamais. Pourtant, on ne devrait pas cesser d'en parler tant que ce ne sera pas réglé. Dans ce monde, un film est meilleur marché qu'un sandwich. Un livre est au prix d'un paquet de cigarettes. Bientôt, un Pléiade coûtera moins cher qu'une bouteille d'eau. Cela ne dit certainement pas le respect de notre monde pour l'art, mais bien au contraire, son immense mépris. Je ne trouve pas du tout positive la facilité avec laquelle on peut se procurer des livres ou des disques, puisqu'elle ne fait que redoubler la difficulté que nous avons à nous loger ou à nous procurer les produits de première nécessité. De la part de nos gardiens de prison, cela veut tout simplement dire « Nous tenons entre nos griffes les peuples affamés et misérables par la nourriture, le logement, l'eau, la santé. » Et on peut bien leur laisser l'art, ils joueront avec cette bricole. Je ne suis pas vraiment sûr que l'art ne perde pas à être si peu cher. Je suis sûr en tout cas qu'il n'y gagne rien. Sur le fond, je pense que le logement, les transports, la nourriture et les soins médicaux devraient être gratuit ou à la limite à bas coût, et qu'on devrait permettre à n'importe qui de vivre, tout simplement vivre. Mais un livre ou un DVD devrait coûter un certain prix. On ne devrait pas travailler pour se payer à bouffer, mais pour se payer un DVD de Bertrand Mandicot, un disque
d'Evin Kang
ou un livre de Chloé Delhomme. C'est ça qui serait logique. Des œuvres que les artistes mettent un an minimum à réaliser ne devraient pas être des trucs qu'on puisse obtenir avec l'indolence d'un gadget. Ça ne sert pas à ça, l'art. Ne faisons pas un art pour les boulimiques. Et juste après, vous nous conseillez quelque chose d'indispensable, et ça, je vais vous laisser le lire vous-même.
On doit être libre de tout, sauf de faire des compromis avec notre vision. Ce que les amis que j'admire m'ont appris, c'est qu'on ne doit jamais cesser de lutter contre les sirènes du bénéfice personnel pour garder intacte notre éthique initiale. Cette lutte nous définit. Ce que les artistes que j'aime m'ont montré, c'est qu'on aura toujours raison de ne pas se laisser avoir par les fables du monde. Et cette clairvoyance nous offre notre véritable visage. Ce monde essaye de nous faire croire que nous devons faire des compromis. Cette vie nous enseigne qu'il n'en faut en faire aucun. Ce monde essaye de nous convaincre de faire des choses qui nous déplaisent en vue d'en faire d'autres qui nous plaisent plus tard. Cette vie nous démontre en permanence l'inverse. Seul celui qui a fait tout le temps ce en quoi il a cru a obtenu la vie qu'il désirait. Mais ce n'est pas simple de savoir ce dont on a vraiment envie. Il faut avoir le cœur pur pour être capable de vouloir ce qui ne nous nuit pas. Il faut avoir combattu contre l'âme adventice pour que notre voyage sur la terre soit un voyage d'âme. Cette âme qui est en nous, mais qui s'oppose à nous. Cette âme qui est placée en nous comme un ennemi intérieur. Ce que les grands artistes nous démontrent sans cesse, c'est qu'on gagne tout à être libre, à refuser le cynisme et la corruption, à travailler sans cesse à des projets qu'on nous prétend impossibles, à refuser les petits choix et les petites amours. Ce que les grands vivants nous montrent toujours, c'est qu'on ne gagne rien à se priver, ni à priver autrui de quoi que ce soit, et que la liberté est toujours la mélodie dont le chaos de la vie a besoin pour ne pas s'effondrer sous les constructions délétères du monde.
Cette énergie à vivre, cette éthique que nous enseignent les grands artistes, on la retrouve aussi chez Roland Topor, chez L'Essentiel Topor, écrivain, dessinateur, metteur en scène ou encore cinéaste français. C'est l'auteur du Locataire chimérique, de La Planète Sauvage ou de Téléchat. Topor a publié en 1968 un tout petit livre hilarant, violent et formidable que j'ai envie d'offrir à tous mes amis grâce à la réédition de chez Wombat, toute récente. Ce livre s'intitule « La vérité sur Max Lampin ». On y voit 71 dessins d'un petit mec en costard, à lunettes, et à chaque dessin, Topor l'insulte. Et ces insultes ressemblent à ces graffitis qu'on trouve dans les chiottes. Wolinski considère qu'il s'agit là d'un sommet de l'humour. Vous en signez la postface, pas comme tellement. Vous parlez merveilleusement de la tronche de cake de cet employé de bureau blondinet, de sa gueule de sale con. Max Lampin est un archétype et un bouc émissaire. Et il y a cette phrase dans votre postface: si nous n'étions pas dirigés par tes clones, Max Lampin, on te demanderait pardon. Max Lampin, symbole contemporain de La République en marche.
En fait, c'est Max Lampin crève. Donc moi, comme déjà La République en marche, dans ma tête, c'était la République en marche et crève, quoi.
Marche ou crève, oui, c'est ça.
Oui, marche ou crève, en marche et crève.
Crève des yeux.
Voilà, ils ont crevé des yeux. Non, mais bien sûr. On peut détester Max Lampin. On peut aussi se dire pourquoi Max Lampin en prend autant dans la gueule. C'est peut-être injuste. Et dans ces cas-là, il annonce presque le Kenny de South Park. C'est vraiment le bouc émissaire absolu.
Dans cette série d'animation, ce personnage qui, les 5 ou 6 premières saisons, meurt à chaque épisode.
Meurt à chaque épisode de façon atroce, et c'est supposé être un gag, et on est supposé être d'accord.
Alors que c'est un enfant.
Alors c'est un enfant, oui.
Je me suis dit, car nous approchons de la fin de cette émission, je me suis dit, Pacôme, que ça vous ferait peut-être beaucoup de bien, ça nous ferait peut-être beaucoup de bien, ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices, de lire en entier ce chapelet d'insultes pour digérer quelques minutes les 2 mois que nous venons de subir.
Oui.
On y va ?
Max Lampin est une ordure.
Max Lampin est un fumier.
Max Lampin est une crapule.
Max Lampin est une ordure de fumier, de saloperie, de merde.
Max Lampin pue des oreilles et des narines comme du cul.
Max Lampin répand une odeur infecte autour de lui.
Max Lampin salit tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche pue.
Max Lampin se touche dans les cabinets.
Max Lampin chie partout.
Max Lampin pète tout le temps.
Max Lampin a des boutons répugnants plein la gueule.
Max Lampin est une capote anglaise pleine de glaviots.
Max Lampin est un voleur, un mouchard, un SS.
Ah bah, Max Lampin crève, charogne.
Max Lampin canaille aux mains rouges de sang.
Max Lampin, gros cul, couille molle.
Max Lampin foutu con, sans le purin.
Max Lampin, crapule, ordure, qui donne envie de dégueuler à tout le monde.
Max Lampin charogne, rongé de vermine en train de pourrir.
Max Lampin a une tête de nœud qui dégouline de sperme rance.
Max Lampin, con au cul moisi.
Je te crache à la gueule, sale ordure, con de Max Lampin minable.
Max Lampin a des morpions qui lui bouffent la bite.
Max Lampin bave sur sa chemise et pisse sur son froc.
Max Lampin a la chiasse. Parce qu'il a bouffé trop de merde.
Merde, Max Lampin est une sale putain ignoble qui se fait enculer par tout le monde.
Max Lampin boit de la pisse et se fait sucer par les flics.
Max Lampin pue de la gueule et sa langue est pleine de verre.
Max Lampin se rentre des canettes de bière dans le cul et puis fait la danse du ventre devant la glace.
Max Lampin est un sale rat couvert de pustules et de morve.
Max Lampin a la morve qui lui descend dans le con.
Max Lampin crève, fumier.
Max Lampin crève, ordure.
Max Lampin crève, pourri, vendu.
Max Lampin crève, mouche à merde dégueulasse.
Max Lampin crève.
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 making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true, and everything that I do is out of loving you.
Nova Book Box, l'hôtel du livre-échange.
Tant qu'ils lâcheront pas du lest, et je pense pas qu'ils vont lâcher du lest avant longtemps, donc il va falloir faire travailler vraiment, vraiment la conviction, ça va être double. C'est-à-dire que ça va être, on va vivre des choses qui vont être de plus en plus difficiles à un niveau politique et social. Ça va aller de plus en plus loin en termes de casse du droit du travail. L'horrible Pénicaud parle déjà de faire travailler les gens 60 heures, donc je ne sais pas si vous voyez le délire. En gros, ça va être l'esclavage. Et en même temps, au niveau des gens, de plus en plus de prise de conscience, de plus en plus de compréhension, de plus en plus d'intelligence même. C'est-à-dire que on est comme dans un monde inversé, où on a une élite idiote pour une masse consciente. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais elle est dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image totalement inversée du fantasme d'ancien régime, du fantasme du monarque éclairé. Ça, c'est quelque chose qui est en train de s'accentuer à un tel point qu'il y a peut-être vraiment ce moment dont on a parlé un peu plus tôt, où il va y avoir un décrochage complet. C'est-à-dire que c'est comme si c'était deux mondes qui ne pourront plus coexister. Et un monde où on va peut-être pouvoir se débrouiller. Je veux dire, s'ils nous lâchent la grappe vraiment, s'ils restent dans leur monde de richesse et de conneries, peut-être qu'on peut se débrouiller.
Merci beaucoup, Paco Mtielman.
De rien.
L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Mathieu Boudon. Merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de l'écrivain français Pierre Sange. Nous parlerons de tarte à la crème et de burlesque grâce à son roman « Projectile au sens propre ».
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On se tire, c'est fini.
Allez. Allez.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.